La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. Il s'agit d'une science nouvelle à la frontière entre la médecine légale et l'anthropologie. Son nom est la paléopathologie. Elle explore les restes humains anciens à partir des fouilles archéologiques, des dépouilles historiques et des reliques. Et en France, Philippe Charlier incarne cette nouvelle génération de scientifiques qui travaillent à cheval sur ces différentes disciplines. Son métier lui a permis de se retrouver face à des cadavres très célèbres, mais aussi à des objets d'art considérés eux aussi comme des patients. De Lucie, la femme la plus célèbre de la préhistoire, en passant par Saint-Louis, Hitler, Chopin, nombreuses sont les énigmes qui ont pu être levées grâce à la paléopathologie. Philippe Charlier est mon invité dans un instant pour nous raconter donc les histoires pleines de mystères auxquelles il a été confronté. Et vous pouvez lui poser toutes vos questions dès maintenant en nous retrouvant sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science aujourd'hui, on remonte aux origines de la Terre, il y a 4,5 milliards d'années.
Oui, et on va essayer de comprendre d'où est venue l'eau qui se trouve à sa surface. Une nouvelle hypothèse allemande fait parler d'elle cette semaine. On vous raconte l'histoire de Theia dans un instant.
Et Frédéric Milano réalise cette émission préparée aujourd'hui par Irène Menahem.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Villard.
Bonjour Philippe Charlier.
Bonjour Mathieu Villard.
Bienvenue, vous publiez chez Talendier Autopsie des morts célèbres avec David Alliot. Alors, je le disais tout à l'heure, la paléopathologie, c'est une science plutôt jeune, récente, et qui a l'avantage finalement d'agréger autour d'elle beaucoup de sciences, hein, des sciences molles aux sciences dures, comme on dit, c'est pas très joli, mais c'est bien de ça dont il s'agit.
Hein. On va dire les sciences fondamentales et les sciences humaines.
Très bien.
Voilà, c'est plus diplomate. Mais en effet, oui, on est vraiment à la croisée des chemins entre, on va dire, l'archéologie, l'anthropologie, l'histoire de l'art d'un côté, et puis de l'autre côté, on a toutes les sciences de la biologie, de la chimie, de la toxicologie. Le but, c'est tout simplement de faire parler les morts, mais d'une façon bien pragmatique, faire parler les corps morts, les reliques, les momies, les squelettes, et puis aussi parfois des objets d'art qui témoignent de la réalité d'une maladie ou d'un personnage historique.
Oui, alors ça c'est le cas au Quai Branly par exemple, on va en parler dans un instant avec vous.
Mais je pensais aussi à un masque mortuaire comme celui de Flaubert ou de quelqu'un d'autre.
Oui. Les cadavres anciens, donc ce sont vos clients, vos patients plutôt
Oui, ce sont nos patients. Oui, ce sont nos patients du quotidien. Alors évidemment, j'ai eu à traiter des patients morts plus récents quand j'étais médecin légiste, que je faisais des autopsies pour la justice, ensuite des prisonniers en contexte pénitentiaire, mais maintenant, ces patients, ce sont, oui, des squelettes qui viennent de fouilles archéologiques, ce peuvent être des momies, soit encore sur le terrain, soit conservées dans des musées, et qui, à chaque fois, ont, comme un patient récent, énormément d'informations à transmettre, qu'il s'agisse de leur sexe, de leur pathologie, de leur cause de mort, de leur état de santé sous-jacent, de leur lien, on va dire, génétique entre une momie et une autre momie, leur origine géographique, toutes les marqueurs d'activité qu'ils ont pu avoir, c'est-à-dire leur, si on retrouvait votre squelette, est-ce qu'on pourrait déterminer que vous avez été, pendant une certaine partie de votre vie, présentateur d'une émission de radiologie.
De radiologie.
Ok, voilà. Pardon, excusez-moi.
Mais ça se verrait peut-être dans mon crâne.
Ça se verrait peut-être dans votre crâne, dans vos articulations. Vous êtes obligé de vous asseoir pendant une certaine quantité de votre vie, etc. Non, très sérieusement, on peut diagnostiquer certaines activités physiques répétitives quand elles laissent un stress sur le squelette, notamment au niveau des insertions musculaires. Par exemple, monter à cheval, par exemple, tirer à l'arc, etc. de façon vraiment intense et répétitive.
Alors Lucie, probablement la plus ancienne patiente de cet ouvrage, en tous les cas, vous avez eu accès à son squelette, Philippe Charlier ?
Alors on a eu accès, non pas au squelette, le vrai squelette de Lucie, qui était entre les États-Unis et Addis Abeba.
Ouais.
On a eu accès à un double en résine de très haute définition, qui est conservé dans le bureau d'Yves Coppens, en l'occurrence, au Collège de France, et puis aussi, grâce au Muséum National d'Histoire Naturelle, à un double numérique en scanner, c'est-à-dire cette fois-ci un outil vraiment radiologique, de son squelette, ce qui nous a permis de vraiment travailler sur un double virtuel du squelette et quasiment avec une meilleure définition, une meilleure capacité que si on avait eu le vrai squelette dans les mains.
Histoire d'en savoir plus sur les conditions de sa mort, en particulier, a-t-elle chuté d'un arbre ? Il y a une publication qui était sortie là-dessus il n'y a pas très longtemps, on en a parlé avec Axel ici à l'Aide de la Science.
Oui, c'était le docteur Capelmal qui avait proposé ça, un médecin américain qui avait dit que vraisemblablement les fractures au niveau de ses quatre membres indiquaient qu'elle avait fait une chute d'une grande hauteur avec réception sur un plan dur. Il avait proposé que ça soit un arbre, vu la géologie. Ça nous semblait un peu bizarre avec Yves Coppens et d'autres collègues. Du coup, on est d'une part allé fouiller dans la littérature médico-légale. Mm-hmm. Et d'autre part, on a regardé aussi son squelette et on s'est rendu compte qu'il y avait des traces de crocs. Voilà, elle a vraisemblablement été croquée au niveau des fesses et du bassin par un des autres animaux qui était présent dans la même couche stratigraphique, en l'occurrence des crocodiles. Donc, la cause de mort peut en cacher une autre.
Bon, on va pas spoiler tout de suite, évidemment, les raisons exactes de sa mort. On va y revenir avec vous dans un instant. Puis d'autres patients très célèbres figurent dans cet ouvrage, Autopsie des morts célèbres chez Talendier. Et vous êtes notre invité, Philippe Charlier, cet après-midi. Les auditeurs nous rejoignent avec les questions sur franceinter.fr.
Alors, la meilleure hypothèse pour la formation de la Lune, c'est la collision... une collision entre la Terre et une planète qui était plus petite que la Terre, peut-être le dixième de la Terre, à peu près comme Mars, au début du système solaire. Cette planète est venue frapper la Terre, mais d'une façon tangente, comme ceci, de sorte qu'une énorme quantité de matière a été arrachée à la Terre à cette période, et cette quantité de matière s'est mise en orbite, une partie, autour de la Terre, et elle a fait un anneau. Et puis, progressivement, ces anneaux se sont compactés, ont formé la Lune.
Voilà le récit de la formation de la Lune, raconté évidemment par la voix d'Hubert Reeves. Il y a 4,4 milliards d'années. Il n'est pas impossible que l'eau sur Terre soit arrivée eh bien, exactement au même moment, Axel Villard.
Et oui, Mathieu, c'est en tout cas l'hypothèse originale qu'un groupe de chercheurs allemands publie dans la revue Nature Astronomy. Selon eux, Theia, l'impacteur géant qui a frappé la Terre, était gorgé d'eau. En même temps qu'il formait la Lune, il apportait avec lui une bonne partie de nos océans et donc les clés de l'apparition de la vie sur Terre. Pour comprendre ce travail et en discuter, nous sommes avec Brigitte Zanda, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes météoritologue et professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle. Alors, les événements dont on va parler sont vieux, hein, 4,4 milliards d'années. Pourquoi, à cette époque, avant l'impact avec Theia, l'eau liquide était absente sur la jeune planète Terre ?
Alors, ce qu'on pense de la Terre telle qu'elle s'est formée, c'est qu'elle s'est formée en deçà, dans le disque protoplanétaire, en deçà de ce qu'on appelle la ligne de glace. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le disque qui entourait le Soleil nouvellement formé était stratifié. C'est-à-dire que près du Soleil, il faisait extrêmement chaud, il n'y avait que des gaz, tous les minéraux étaient vaporisés. Et très loin, au contraire, il y avait tous les minéraux étaient condensés et on trouve en particulier de la glace. Donc il y a une limite qu'on appelle la ligne de glace au-delà de laquelle la glace est présente. Et pour pouvoir rentrer dans la composition d'une planète, il faut être solide. Et donc les corps qui se sont formés en deçà de la ligne de glace, ce qui était probablement le cas de la proto-Terre, ne contenaient pas d'eau, ou très peu d'eau, tandis que les corps formés au-delà, et c'est pour ça qu'on a formé les planètes géantes à cet endroit-là, contenaient de l'eau.
Donc, pour avoir de l'eau, il faut forcément qu'elle vienne. D'ailleurs, c'est l'hypothèse sur laquelle on travaille maintenant. L'hypothèse aujourd'hui, à peu près admise, c'est quoi ? C'est les météorites, un bombardement de météorites ?
Oui, parce qu'on s'est rendu compte que d'un point de vue de la composition isotopique, alors donc sans rentrer dans le détail, les isotopes, ça sert de traceur, un peu comme l'ADN chez les humains. Ça permet de connaître l'origine des objets et d'établir des liens de parenté. Bah, d'un point de vue isotopique, l'eau des océans de la Terre ressemble aux chondrites carbonées, aux météorites primitives de nature carbonée. Elles se ressemblent tout à fait.
Sauf qu'il en faudrait beaucoup des météorites quand même pour remplir notre Terre d'océan, non ?
Alors si c'est les petites météorites qui tombent à l'heure actuelle, oui, c'est pas grand-chose. Mais si ce sont des gros impacteurs, en revanche, on peut apporter beaucoup. Puis ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que en fait, la quantité d'eau qu'il y a sur la Terre, si on est face à l'océan, qui fait par endroit des kilomètres de profondeur, c'est beaucoup. Oui. Mais à l'échelle de la Terre, c'est rien. Michel Mayor, qui a découvert les exoplanètes, avait pris cette image une fois, je trouve très parlante. On prend une orange, on la met dans l'eau, et la petite pellicule d'eau qu'il y a autour, c'est ça, les océans sur la Terre. Donc c'est très peu d'eau à l'échelle de la Terre.
Ouais. Donc là, l'hypothèse que font ces chercheurs allemands, c'est que Theia, l'impacteur, vient au-delà de cette ligne de glace dont vous parlez. Comment est-ce qu'ils font pour retracer l'origine d'une planète qui a explosé il y a 4,4 milliards d'années ? Parce que quand même, c'est ça qu'ils font dans le travail.
Alors, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont comparer les signatures, donc les qualités isotopiques des roches, des chondrites carbonées, celles des chondrites non carbonées, des objets qui viennent probablement de l'intérieur du système solaire et de la Terre dans son ensemble, en particulier sur un élément particulier qui est le molybdène. Et donc, normalement, à la surface de la Terre, il y a très très peu de molybdène, parce que le molybdène est parti dans le noyau au moment de la formation du noyau avec le fer sous forme métallique. Et donc le molybdène qui est à l'heure actuelle proche de la surface de la Terre, dans le manteau, dans la croûte, il a été amené tardivement par les impacteurs, donc soit par l'impacteur géant, soit par les cortèges de météorites qui sont tombés ultérieurement. Donc ils font l'hypothèse que c'est ces mêmes impacteurs qui ont apporté l'eau. Et donc, ils vont regarder quelle est la proportion de matériaux qui vient de l'extérieur et de l'intérieur du système solaire. Et ce qui démontre, par une petite modélisation assez simple, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait eu de l'eau dans l'impacteur géant qui est à l'origine de la formation de la Terre.
Donc, si je résume, ça veut dire qu'une partie de la matière de la Terre ne pourrait pas s'être formée aussi proche du Soleil que nous, et donc elle vient de en dehors, de là où l'eau pouvait s'être formée.
C'est exactement ça, oui.
Au moment où les deux planètes se rentrent dedans, il y a 4,4 milliards d'années, que se passe-t-il exactement là ?
Alors là, c'est un phénomène absolument mais monstrueux, catastrophique, et il y a des modélisations récentes qui décrivent de près ce phénomène. Ils parlent d'un objet qui s'appelle une synestia, qui n'est plus une planète, qui n'est pas un satellite, qui est une espèce d'ensemble de solides, de liquides, de gaz absolument monstrueux, extrêmement chaud, qui est en rotation et à partir duquel va se reformer la Terre et va se reformer la Lune en orbite autour de cette Terre. Et donc c'est un objet qui ne ressemble à rien en fait, qui est un produit de collision pendant une période assez longue.
Quelle est sa taille à peu près ?
Alors, c'est la distance entre la Terre et la Lune, globalement. Hein. Donc,
c'est
absolument gigantesque.
C'est une belle bête.
Oui.
Ça fait 300 000 km quand même, la distance entre la Terre et la Lune.
Donc, c'est quelque chose d'absolument énorme, mais c'est un nuage de gaz et de poussière, en fait. Hein. Enfin, de liquide et surtout ultra chaud, quoi.
Alors, si on suit un peu cette hypothèse jusqu'au bout, à la fin, il y a la Terre et il y a la Lune. Pourquoi on retrouve de l'eau sur Terre à la surface et sur la Lune, pas tant que ça ?
Alors, ça suppose que cet objet a été relativement fermé et que l'eau qui était dans ce matériau sous forme gazeuse, bien sûr, ne s'est pas évaporée, n'a pas quitté le système et s'est recondensée. Et je dois dire que les modélisations qui existent à l'heure actuelle ne suivent pas le devenir de cette eau. Donc être sûr que c'est vraiment cette eau-là qu'on retrouve, c'est quand même assez difficile. Ce qu'il faut dire, c'est qu'après que la Lune se soit formée, le bombardement, il a continué. Donc il y a encore beaucoup d'objets, de gros objets, puisque c'était le début de la formation du système solaire. Il y a beaucoup de gros objets qui sont encore arrivés et qui ont encore apporter de l'eau. Donc savoir quelle est la proportion relative de tout ça, c'est assez difficile en fait.
Pour vous, cette hypothèse, elle se tient ? Il faut continuer de chercher l'origine de Théia pour savoir si vraiment l'eau vient de cette planète ?
Oui, bien sûr, il faut continuer à chercher. On va pas trouver très facilement la réponse, pas immédiatement la réponse. On comprend même pas bien exactement ce qu'est ce matériau primitif, mais il faut continuer à étudier petit à petit, et c'est comme ça que se construit la science.
Alors une dernière question, en ce moment il y a deux missions qui sont en train d'essayer de ramasser des morceaux d'astéroïdes, Bennu et Ryugu. Est-ce que la réponse pourrait venir de ces retours d'échantillons que c'est prévu pour 2024 et 2030 je crois ?
Oh non, c'est même plus tôt que ça.
C'est plus tard.
Oui, c'est plus tôt que ça. C'est plus tôt que ça. La mission japonaise va revenir dans, je me souviens plus exactement, mais je crois 2023 et la mission américaine peut-être 2026. Je connais pas les dates exactes, mais c'est plus proche que ce que vous dites. Alors oui, fatalement, ça va apporter des éléments de réponse. Après, est-ce que ça va vraiment faire basculer nos connaissances ? Il est encore trop tôt pour le dire.
Merci beaucoup Brigitte Zanda, météoritologue, hein, quand même, parce qu'on connaît mal ce nom de discipline, mais bon, ça dit bien ce que ça veut dire. Merci beaucoup à vous pour votre passage aujourd'hui à la Une de la Science, Axel. À demain.
À demain Mathieu.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité des sciences, l'évolution et l'histoire évolutive des punaises de lit auraient commencé il y a 80 millions d'années. Ce résultat a été obtenu en analysant l'ADN de ces parasites sur toute la surface du globe pendant 15 ans, dans les lits humains, dans le nid des oiseaux et jusqu'au fond des grottes, dans la couche des chauves-souris. Les chercheurs norvégiens qui publient ce résultat ont découvert que ces parasites ont très certainement connu les dinosaures. Des punaises de lit, donc plutôt des punaises de nid, auraient squatté le couchage du grand T-Rex et sucé son sang tout comme le nôtre. Une étude américaine confirme que les vieux cerveaux continuent de former de nouveaux neurones et c'est réjouissant. En analysant les cerveaux de personnes décédées entre 79 et 99 ans, et bien des chercheurs de l'université de Chicago ont pu mettre en évidence la présence de jeunes structures neuronales. Ils confirment également avec cette étude ces neurones récents, et bien ils sont beaucoup moins nombreux chez les personnes souffrant d'Alzheimer au moment de leur mort que chez les personnes intellectuellement saines. Et puis pour terminer, le médicament le plus cher du monde, la Food and Drug Agency américaine vient d'approuver un traitement en une prise pour une forme de maladie rare du nourrisson, son prix 2 millions de dollars le flacon. La drogue développée par la firme Novartis est une thérapie génique qui permet de guérir complètement une maladie mortelle du développement des muscles chez le nouveau-né. Le laboratoire affirme que les patients pour qui le médicament n'a pas fonctionné seront en partie remboursés. Allez, dans un instant, autopsie des morts célèbres avec Philippe Charlier.
Une tache, une ombre, et dans le désert, des traces de poudre et de safran, des taxis blancs, des claquements de portières, un vrai mélange de sentiments. Madrid, Madrid, le prix que je paye, c'est encore quelques heures sans sommeil pour me souvenir de toi. Puerta del Sol, station du métro, sortie vers la Plaza Mayor. Je suis à l'heure, je crois même que j'en fais trop, une vraie doublure dans un décor. Madrid, Madrid, tu peux me faire signe, tu peux brouiller mes mots sur la ligne quand je parlerai de toi. Jusqu'au dernier détail. Dios, roi, siège de ses miens. Ses yeux derrière un éventail. Madrid, Madrid, les choses que je pense sont un petit air d'accordéon ronce quand elle n'est pas avec moi. C'est encore quelques heures sans sommeil pour me souvenir de toi. Toda una tarde en el retiro, echando piedras a un farol. Els meus amors se han derretido con tanta luz y tanto sol. Madrid, Madrid, me pongo triste al verlo bien. Et dans le désert, des traces de poudre et de safran, des taxis blancs, des claquements de portières, un vrai mélange de sentiments. Madrid, Madrid, me desesperas, de tanto mover las caderas, se van a reír.
La voix de Nilda Fernandez qui nous a quitté il y a quelques jours. Madrid, Madrid, à l'instant.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Philippe Charlier, vous êtes donc notre invité cet après-midi dans La tête au carré pour cet ouvrage Autopsie des morts célèbres, écrit avec David Alliot et qui paraît chez Talendier. Les auditeurs nous rejoignent bien sûr avec les messages sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Vous êtes docteur en médecine, vous êtes maître de conférence des universités, praticien hospitalier, directeur du département de recherche et de l'enseignement au musée du Quai Branly, Jacques Chirac à Paris. Et puis on vous voit également sur la 5 tous les mercredis. Donc vous avez un emploi du temps bien chargé. Comment est-ce que vous répartissez d'ailleurs vos différentes activités alors?
En fait, je suis en détachement au musée du Quai Branly Jacques Chirac comme directeur de la recherche et de l'enseignement où justement j'essaye d'appliquer ces techniques à la fois biomédicales et d'histoire des maladies et aussi une vision d'anthropologie médicale sur les objets qu'on disait anciennement d'art premier qui sont maintenant des objets des populations extra-européennes et puis aussi de travailler sur l'anthropologie sociale, les rituels magico-religieux autour de la maladie et de la mort. Donc tout ça s'interpénètre très bien.
Vous êtes nombreux d'ailleurs à exercer la paléopathologie dans le monde, discipline récente, on le disait. Elle est reconnue d'ailleurs de quelle façon exactement?
Alors il y a une revue qui s'appelle International Journal of Paleopathology. On publie assez fréquemment dans des revues à la fois médicales et aussi anthropologiques. Il y a une association internationale. Donc non, c'est une discipline qui existe en tant que telle. Mm-hmm. On ne doit pas être très très nombreux à la surface du globe. On est peut-être, je ne sais pas, 500 je vous dirais, ouais. Et dont une cinquantaine à peu près en France. Ouais. Donc c'est surtout les mondes anglo-saxons et en Italie il y a aussi une bonne école, en Espagne, voilà. Mm-hmm. Mais c'est quand même cantonné à l'Europe et au monde nord-américain.
Alors, c'est vrai Philippe Charlier qu'on associe toujours à votre nom ces patients extrêmement célèbres, mais ça c'est peut-être la partie émergée de l'iceberg, hein, parce que vous ne vous occupez pas que des superstars de la mort.
Non, en effet, ce sont ceux pour lesquels, oui, il y a une relative médiatisation parce que ça parle tout simplement, mais la majorité de mes patients n'ont pas de nom. Mm-hmm. C'est les anonymes qui font l'histoire, si on peut dire, c'est-à-dire des 500 sépultures mérovingiennes ou des individus qui n'ont pas laissé ni de nom ni d'identité, absolument aucune trace. Mais c'est vrai que travailler sur des personnages historiques a quand même un double avantage, c'est que d'abord on ne travaille pas les yeux fermés. C'est-à-dire qu'on a des données qui sont biographiques et donc ça nous permet de guider un tout petit peu nos recherches. Mm-hmm. Et l'autre avantage, c'est que ça nous permet aussi de savoir parfois si l'histoire dit la vérité ou pas. Par exemple, travailler sur Saint-Louis, Richard Cœur de Lion ou les reliques de Jeanne d'Arc nous permet parfois de pouvoir répondre à est-ce qu'une tradition qui a été préservée au fur et à mesure des générations dit la vérité? Est-ce que, par exemple, Saint-Louis est vraiment mort de la peste, mm-hmm, ou est-ce qu'il est mort d'autre chose?
Donc vous laissez entendre que votre discipline dit la vérité.
Non, notre discipline participe à la manifestation de la vérité. Et c'est pour ça qu'on bosse jamais seul. On bosse toujours avec des historiens de l'art, des archéologues, etc. C'est vraiment un travail de groupe. Mais c'est vrai qu'on apporte une information qui, normalement, se doit d'être fiable et en théorie irrévocable dans l'état actuel de la science.
Oui, parce que l'histoire, c'est aussi un terrain hautement inflammable, en tout cas fait de discussions, ah oui, de controverses entre scientifiques, et vous n'y échappez pas d'ailleurs, parce que même lorsque vous faites des propositions, elles sont parfois critiquées aussi par vos confrères, et c'est normal, hein, c'est aussi normal, le cheminement normal de la science. Donc c'est-à-dire que même avec les outils dont on dispose aujourd'hui, il faut garder toujours une certaine marge d'erreur ou pas?
Alors, d'abord, on a toujours une marge d'erreur, c'est-à-dire qu'on a toujours ce pourcentage d'erreurs potentielles qui peut tenir autant à des dosages de carbone 14, mm-hmm, qui sont jamais fiables à 100%, qu'à des diagnostics en biologie moléculaire. On n'est jamais certain d'identifier 100% du génome d'un agent infectieux, mais on a 98 ou 99%, donc il y a toujours des marges d'erreur. Mm-hmm. Il y a aussi une marge d'erreur qui tient à un diagnostic macroscopique. Nos yeux, comme les yeux de n'importe quel médecin, sont faillibles et on peut se tromper dans l'évaluation d'une lésion qu'on dépistera sur un os sec. Et puis surtout, on se rend compte que travailler sur des personnages historiques est parfois un petit peu dangereux. Quand j'avais travaillé sur Robespierre, en l'occurrence, une partie de la frange politique avait critiqué la reconstitution du visage qu'on avait fait avec Philippe Freuch, disant, ouais, qu'on essayait de noircir et de moquer l'héritage progressiste de la Révolution française en présentant un visage de Robespierre qui était touché par la maladie. J'y peux rien, il était malade, il avait des cicatrices de variole, c'est la stricte réalité anatomique. Et pour moi, il ne faut pas s'arrêter évidemment à l'aspect physique d'un individu pour le juger dans ses actions politiques ou autres. Pareil avec Henri IV, quand on avait identifié, là maintenant, pour le coup, c'est vraiment sûr et certain, la tête d'Henri IV. C'est vrai qu'il y a eu une querelle principalement politique, sous-tendue de données scientifiques, entre les Orléans et les Bourbons, qui sont deux chapelles, si on peut dire, royalistes, qui s'opposent un tout petit peu. Mais l'avantage, c'est qu'il y a quelques arguments scientifiques qui avaient été amenés et qui nous ont obligés à aller encore plus loin dans la recherche. Et c'est ça qui est intéressant. Il ne faut pas refuser les querelles scientifiques. Il faut accepter d'être remis en question. Mmh. Et surtout, ça nous oblige à améliorer la technique.
Donc, vous rallumez les braises de la discorde aussi, au passage, de temps en temps. Hein,
désolé, ça arrive un peu.
Sur des dossiers comme ceux que vous décrivez, évidemment. Alors, il y a un autre mort très célèbre, c'est Adolf Hitler. Là aussi, c'est un terrain extrêmement glissant, quand même, hein, de d'écrire une page de l'histoire d'Hitler, sa mort en particulier, avec ce qui nous reste de lui, c'est-à-dire quoi?
Pas grand-chose.
Un peu de crâne, alors, un bout de mâchoire.
Ce dont on est certain, ce sont les fragments de la mâchoire, donc appareil dentaire, dents natives, mandibule et maxillaire, mm-hmm, et puis des fragments de muqueuse et de muscles encore adhérents, et même du tartre dentaire. Et ce dont on n'est pas encore certain, c'est un fragment de crâne. Au moins, on a pu montrer qu'il était totalement compatible avec lui, mais il nous manque une dernière étape, qui est celle de l'analyse génétique.
Ouais, on y reviendra avec vous, ça fait l'objet de deux voyages d'ailleurs, en Russie, dans des conditions assez rocambolesques. On pourra les décrire avec vous dans un instant. On évoquait Lucie, l'Australopithèque, tout à l'heure, plus de 3 millions d'années, 3,2 millions d'années. Et ce travail d'ailleurs que vous avez mené avec Yves Coppens pour essayer d'en savoir plus. On va écouter l'extrait d'un petit documentaire à son sujet.
De Lucie, l'Australopithèque qui vivait il y a 3 200 000 ans, on a gardé l'image d'un squelette fossilisé et incomplet disposé sur une étoffe. Mais comment Lucie, bipède et arboricole, est-elle morte? Tombée des arbres où elle se réfugiait pour dormir en sécurité, nous disent aujourd'hui des chercheurs américains. C'est l'humérus, l'os du bras droit de Lucie, qui livre le premier indice, car il porte une fracture caractéristique.
Une personne qui tombe de haut tend les bras en avant. Vous avez probablement déjà fait ça pour essayer d'amortir une chute. Le choc des mains sur le sol va alors se répercuter jusqu'à l'épaule.
Voilà, Philippe Charlier. Alors, est-ce que vous avez validé cette étude scientifique, là, qui est sortie il n'y a pas longtemps du tout?
Alors d'abord, c'est compliqué, parce que les modèles qui sont applicables, comme le disait mon collègue américain, sur l'homme moderne, Homo sapiens, ne sont pas forcément applicables sur un squelette qui date de plus de 3 millions d'années. Mm-hmm. Donc, c'est dangereux de faire correspondre l'un avec l'autre. Bon, néanmoins, si on applique le même modèle et si on examine complètement le squelette, on se rend compte qu'il y a d'autres lésions aussi. Et peut-être que la séquence qu'on a pu diagnostiquer en faisant l'examen complet du squelette de Lucie montre que 3 étapes successives sont survenues pour arriver à la mort. La chute de l'arbre, ok, peut-être. Ce qui est certain, c'est le fait qu'elle a été croquée par un animal et vraisemblablement la morphologie croquée, ça fait pas très scientifique, mais on va dire elle a des traces de morsures profondes par un animal dont la trace des dents est compatible avec celle des sauriens qui étaient dans la même couche. L'autre chose aussi, c'est que le dépouillement des données en médecine légale montre quand un corps est charrié dans une coulée de boue, un glissement de terrain, il va subir des rotations au niveau des membres.
Évidemment,
oui. Et ça va donner exactement le même type de fracture que ce qu'on va retrouver au niveau de l'humérus, mais aussi tibia, fémur. Et donc du coup, chute d'un arbre ou le fait d'être prise dans un roulement de terrain, bah, le problème c'est que le roulement de terrain, on en a la trace. Lorsque Yves Coppens, parmi tout le reste de l'équipe, a mis au jour ce squelette qui était dispersé sur une très grande surface, plus de 100-150 mètres de distance, et bien c'était dans une couche qui correspondait exactement à un mélange de sédiments divers dans un contexte de glissement de terrain.
Donc ça pourrait être trompeur par rapport à ce scénario possible de la chute
de
l'arbre.
Ça pourrait être trompeur, ça pourrait être en fait un scénario qui aboutit au même type de lésion traumatique, mais c'est l'avantage d'avoir vu le terrain et de connaître le terrain. Je ne parle pas pour moi, je parle pour Yves Coppens.
Donc là, les circonstances de sa mort restent ouvertes. On pourrait presque dire les choses comme ça.
Elle reste ouverte. Si ça se trouve, elle est peut-être tombée d'un arbre. Ensuite, en tombant de l'arbre, eh bien, elle n'était plus à l'abri des... surtout qu'elle ne pouvait plus se mouvoir si elle avait une fracture. Elle n'était plus à l'abri des fauves ou équivalents, en tout cas les animaux carnivores. Peut-être ce crocodile et ensuite peut-être ce glissement de terrain. Le glissement de terrain peut très bien intervenir aussi sur un cadavre frais donnant le même type de lésion. C'est compliqué déjà pour un individu mort récemment. Alors imaginez, c'est encore plus compliqué pour un individu, un, mort il y a plus de 3 millions d'années, deux, dont seulement 20 à 30% du squelette sont conservés.
Philippe Charlier, autopsie des morts célèbres. Vous êtes l'invité de la Tête au Carré cet après-midi.
Souvent je mens pour aussi papillonner, me faire croire que les passants pourraient être tous intéressants. Je m'évente d'admiration, m'extase à l'addiction d'une phrase ou d'un jeté de sourire vite interprété. Souvent je mens pour faire croire à mon dedans qu'il vit démesurément et qu'il peut même plaire à plein temps avec juste un ou deux baisers que je chope à l'envolée. Je m'imagine des volcans qui inonderaient mes champs de plaies. Souvent je mens, je m'excite pour tous les gens qui lancent des banales à temps comme ils lanceraient naturellement des sextos juste pour jouer avec très peu de finalité. Quant à moi, je tombe amoureux devant le paletant des gens fougueux. Souvent, je mens et je sais en faire des caisses assez lourdes apparemment, car elles pèsent tout comme elles restent pendant des semaines de galère où je rame à tout défaire, m'émanciper de ces affaires. Viens, regarde, je ne sais pas le faire. J'ai le cœur en dame, comme, je crois en tout ce qui cogne. Comme, j'ai pas compris les codes, même s'ils m'impressionnent. Comme si j'ai pas la cote, comme ça je me mens. J'ai le cœur en dame.
conditionne. Donc si j'ai pas la cote, comme ça je me mens. Souvent je mens. Encore plus quand il y a air, je me fais mes films en grand et je fonce même sans critères. Mais s'il s'avère que ce n'est qu'un plan comme d'habitude, je me prosterne car ce gris est indécent, surtout devant l'imaginaire. Souvent je mens dans des courses à court de nerfs. Ça me donne des jours rêvant d'amour fou et de minerve. Faut oublier les emmerdes, je surveille les blogosphères, tous les détails croustillants qui me mettent encore plus à terre. Souvent je mens pour me donner de l'épaisseur, comme des centaines de manteaux que je mets pour faire couler la sueur. Car ici il fait pas chaud et tous ces sauts donnent la chaleur, avec un tout petit goût de faux qui laisse le tout fat sans saveur. Souvent je mens pour frétiller en douceur, me faire bander aisément dans des rêves lourds, y'a pas d'heure. Je m'imagine même sans dents embrasser des jolis cœurs qui acceptent bénévolement de se livrer à tous mes leurs. Oh. J'ai le cœur en dame, 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 je crois en tout ce qui gagne. Dame, dame, j'ai pas compris les codes, même s'ils m'impressionnent. Sauf si j'ai pas la cote, comme ça je me mens. J'ai le cœur en dame, 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 chaque fois que je tombe croque love, love, love. J'ai pas compris les codes, même s'ils m'impressionnent. Sauf si j'ai pas la cote, comme ça je me mens. Car il me manque cette audace, des prises de position classe avec des je t'aime efficaces, sans les jeux de baise à la ramasse. Il me manque ce petit tac de sursoir pour que ça marche. En attendant, je mets les races, puis je crois en tout ce qui se passe. Je crois que j'ai pas compris les bases, pour qu'autant je galère au max. Mais comme Jacques disait des dames, c'est ton pire ennemi qui est en face. Du coup, je fais comme d'hab, je me cache et je m'invente des cœurs qui frappent en criant des idoles en masse, tout en les épiant sous mon masque. J'ai le cœur en dame, 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 je crois en tout ce qui cogne. Comme, comme, j'ai pas compris les codes, même s'ils m'impressionnent. Donc si j'ai pas la cote, comme ça je me mens. J'ai le cœur en dame, 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 chaque fois que je tombe croque love, love, love. J'ai pas compris les codes, même s'ils m'impressionnent. Donc si j'ai pas la cote, comme ça je me mens.
A Random, c'était Edith Préto.
La tête au carré sur France Inter.
Philippe Charlier avec nous pour ce livre chez Talendier, Autopsie des morts célèbres. Est-ce que l'étude de ces morts demande des précautions particulières d'ailleurs ?
Alors quand ce sont des morts relativement récents, en théorie pas trop. En revanche, quand on s'intéresse à des couches qui ont été congelées, qui ont fait l'objet d'un très grand délai évolutif, je pense à des couches du Pléistocène par exemple, qui ont plus de 100 000 années, là oui, ça peut être potentiellement dangereux.
Pour quelle raison alors hein?
En fait,
qu'est-ce qui est dangereux ?
En fait, c'est que ces couches qui se sont pas décomposées, mais qui ont été figées par la glace, par le ce qu'on appelle le permafrost, eh bien, rien ne s'est décomposé, rien ne s'est putréfié, tout est un petit peu figé dans le temps, et notamment pas simplement des restes botaniques ou humains, mais aussi des agents infectieux. Et ce sont ces agents infectieux qui sont potentiellement dangereux, virus, bactéries, parasites. Mmh. Nous, on a évolué depuis, mais notre système immunitaire ne saurait pas forcément les reconnaître et lutter contre eux. Et donc, il est possible, c'est toute l'importance des travaux de Jean-Michel Claverie à Marseille, qui travaille sur ce qu'il a appelé les Pandoravirus, par
les
exemple.
Les virus géants.
Alors, les virus géants, et notamment, Pandoravirus, c'est quand même un nom extrêmement bien choisi. Voilà, c'est la boîte de Pandore, c'est cette idée d'ouvrir, en fait, une boîte qui renferme énormément de malheurs, et seul reste l'espoir à la fin ou l'espérance. C'est un petit peu ce qui risque d'arriver. La fonte complète du permafrost, n'en déplaise à certains chefs de gouvernement américains, est une réalité au sens mondial et elle risque de remettre en mouvement des agents infectieux qui étaient initialement bloqués, stockés, et pas que ça aussi, des métaux lourds comme le mercure.
Ouais. Alors il y a effectivement ce problème-là et vous dites qu'il y a eu des précédents très récents d'ailleurs en Russie, je crois, avec une épidémie de charbon, c'est ça ?
Oui, en Sibérie, de l'anthrax, donc du charbon. Ouais. Une épidémie, en fait, c'était des rennes qui était mort depuis une centaine d'années à peu près, du charbon, donc une bactérie extrêmement virulente et avec un fort pouvoir de nuisance et de mortalité. Et bien comme le charnier, si on peut dire, a fondu, le charbon était toujours actif, a contaminé des rennes, et là une nouvelle épidémie est survenue de façon assez localisée, et malheureusement un enfant est mort aussi. Ouais. Donc ça a également touché l'homme. Donc c'est pas anodin d'aller se promener là-bas dans ces pays.
Ouais, c'est ça, et de chasser les ossements, par exemple, hein, parce qu'on peut imaginer le pire des scénarios, un chasseur, par exemple, d'ossements qui va répandre un virus dans une grande ville, ça peut être tout à fait plausible ou pas?
C'est totalement plausible, il va d'abord le ramener dans ses chaussures, ensuite dans le sac plastique, ensuite sur son sac à dos, qu'il va poser ensuite dans le métro, etc. On croirait que c'est un scénario de film écrit par Guillaume, ouais. Ou de livre écrit par Guillaume Musso ou Franck Thiez, mais c'est un peu ce qui risque d'arriver.
Ouais. Alors, vous dites autre chose, Philippe Charlier, c'est qu'aujourd'hui, on remarque que certains corps ne se décomposent plus.
C'est un vrai problème de société, ouais. Et c'est d'abord un vrai problème médico-légal. C'est qu'on se rend compte, notamment en Allemagne du Sud et dans certains territoires de l'Est de la France, mm-hmm. qu'à la réouverture des sépultures, pour faire par exemple un dépôt d'un nouveau corps, une réduction de tombe, eh bien on tombe sur, sans faire le jeu de mots, on tombe sur le corps du précédent qui ne s'est pas décomposé, pas putréfié.
Incroyable.
Tout simplement pour deux raisons. C'est pas qu'il y a eu des soins de conservation ou de thanatopraxie, mm-hmm. c'est qu'il y a beaucoup de conservateurs dans l'alimentation et un usage parfois immodéré d'antibiotiques qui du coup vont complètement bloquer les étapes de la décomposition.
Donc ça tue les bactéries qui sont chargées normalement de décomposer ou putréfier les corps, c'est
ça ? Si ça ne les tue pas, en tout cas ça les empêche d'agir et de se multiplier. C'est pas un phénomène généralisé, mais en tout cas, dans certains cantons suisses et en Allemagne du Sud, ça a déjà posé des problèmes où eh bien, on ne pouvait pas faire de réduction de tombe puisque le corps était encore en très très bon état. En fait, le corps, il n'est pas intact comme vous et moi ou vos auditeurs, mais il est momifié, mais une momie facilement reconnaissable.
Ouais.
Alors c'est très bien pour la médecine légale parce que ça permet, quand on fait des exhumations, de faire des diagnostics. C'est génial pour l'archéologie du futur. Bon, maintenant, quand on est un tout petit peu plus pragmatique, ça pose un vrai problème de place.
Philippe Charlier, autre patient célèbre, c'est Saint-Louis. On en a d'ailleurs largement parlé déjà. Il y a un documentaire qui a été tourné autour de cette question. Mais il faut y revenir parce que c'est vrai que c'est un cas tout à fait intéressant de dispersion. Vous parlez d'un véritable puzzle du corps de Saint-Louis. On écoute un extrait de ce documentaire qui avait été diffusé sur France 5 et on en parle juste après ensemble.
Le problème, c'est qu'il faut ramener le cadavre de Tunis jusqu'à Saint-Denis, puisque à l'heure de sa mort, il a vraiment à nouveau réitéré cette demande, être inhumé à l'abbaye de Saint-Denis.
Le corps a été éviscéré comme c'était la tradition à l'époque.
On a fait quelque chose de tout à fait incroyable pour nous, c'est-à-dire on a fait bouillir dans du vin le corps du roi.
Et donc on fait bouillir ce corps pour séparer les chairs d'un côté des ossements de l'autre.
Les entrailles ont été mises de côté ainsi que le cœur et le corps du roi a été démembré.
Voilà, extrait de ce documentaire, Le Roi dispersé, Philippe Charlier, auquel évidemment vous avez participé. Alors c'est vrai que c'est vraiment le puzzle total, hein, Saint-Louis. Hein.
Alors c'est le puzzle de la volonté de son petit-fils qui a fait réouvrir le tombeau de grand-papa une fois qu'il a été béatifié. Et en fait, il a dispersé un petit peu partout. D'abord pour qu'il y ait le corps de ce bienheureux puits saint un petit peu dans chaque église ou baronnie. Et ensuite, il a remercié les gens qui étaient l'entourage de son grand-père. C'était une sorte de cadeau à la fois diplomatique et politique. Mmh. Ça nous a en revanche bien compliqué la tâche pour essayer de le retrouver.
Ouais.
Néanmoins, on a travaillé sur des fragments assez intègres, notamment la mandibule de Saint-Louis, qui est conservée à Notre-Dame de Paris. Maintenant, je ne sais pas où elle est exactement, mais en tout cas,
elle a été préservée et protégée,
comme la chemise de Saint-Louis d'ailleurs, qui est intègre, heureusement. Et puis, on a également travaillé sur un bras de Saint-Louis qui est à Prud'homas, dans le Lot, qui en fait n'est pas un bras d'ailleurs. C'est l'examen scanographique l'a montré, mais un fémur gauche. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne soit pas authentique, mais ça veut peut-être simplement dire que les connaissances anatomiques à l'époque étaient à peu près celles d'un étudiant en médecine avant qu'il passe le concours.
Alors c'est ça, ça veut dire que cette discipline, finalement, la paléopathologie, ça sert aussi à repréciser les choses, à combler des vides, hein, et à essayer d'éclairer tous ces mystères de l'histoire.
Oui, c'est une technique parmi d'autres, et j'insiste vraiment sur le parmi d'autres, hein, on n'est pas les seuls à avoir ce savoir-là, mais c'est une technique qui est vraiment à la disposition de l'archéologie, de l'histoire, pour corriger des erreurs. C'est une des cordes à l'arc de l'analyse systématique du passé.
Mais à quel moment on fait appel à vous, alors justement, Philippe Charlier ?
Alors, on fait appel à nous pour une découverte d'une sépulture, d'une nécropole ou d'un cimetière, quand il s'agit de travailler sur des reliques, quand il s'agit, comme vous l'avez vu récemment, l'exhumation à la recherche à Loche de Ludovic Sforza, un des mécènes de Léonard de Vinci, duc de Milan. Là, il faudra absolument qu'il y ait une étude paléopathologique qui soit faite pour identifier de façon certaine ce corps et savoir si c'est vraiment celui de Ludovic, le mort Ludovic Sforza. On travaille également pour certains musées, je ne parle pas que du musée du Quai Branly, mais je pense au musée du Louvre, par exemple, ou au musée d'Orsay, quand il y a des peintures ou des sculptures ou des masques qui représentent potentiellement une maladie, pour faire la part des choses entre soit la maladresse de l'artiste, ça arrive, ou une véritable représentation d'une maladie voulue.
Oui. Vous parliez de Léonard de Vinci, il y a une publication qui vient tout juste de sortir sur l'hyperactivité de Léonard de Vinci, je ne sais pas si vous l'avez vu, parce qu'elle est tombée là, cette fin de semaine, et c'est encore une façon de préciser les choses, mais c'est vrai que sur les personnalités extrêmement célèbres, justement, on essaye toujours d'affiner les portraits, mais avec, là aussi, on le disait tout à l'heure, une certaine marge d'erreur, c'est-à-dire que les publications ne sont pas toujours à prendre à la lettre. Hein.
Je suis bien d'accord avec vous. En fait, quand vous tapez, il y a un moteur de recherche sur Internet qui s'appelle PubMed, qui est un moteur de recherche des publications scientifiques biomédicales. Et quand vous tapez « mort du Christ », par exemple, ou « mort d'Alexandre » ou « mort de Mozart », vous avez pour chacun une centaine de médecins qui ont tenté de trouver une hypothèse la plus abracabrantesque possible. Et en fait, c'est vraiment un catalyseur de mauvaises idées, de mauvais diagnostics et de mauvaises méthodes. Donc, il faut faire attention, comme dans toute publication scientifique, il y en a qui soit essaient de faire leur nom là-dessus, soit d'autres qui sont férus et comme c'est original, ça passe en relecture et malheureusement c'est publié. Voilà, faut que ça soit une vraie bonne équipe pour le faire.
Ouais. Donc, c'est-à-dire
on s'improvise pas paléopathologiste.
Les dossiers médicaux des personnalités de l'histoire sont assez épais en général, mais il faut trier beaucoup.
Il faut trier, exactement.
Le cas d'Anne, la mère de Louis XIV, Anne d'Autriche, qui montre qu'on meurt du cancer depuis longtemps, mais on l'a réellement appris avec elle ou...
Non. Le cas d'Anne d'Autriche est assez intéressant parce que la définition même du cancer a beaucoup évolué pendant la période de vie et d'agonie de cette femme. À l'époque, on considérait que le cancer était une sorte de parasite qui grignotait au fur et à mesure le corps de la victime, du patient. Et du coup, la pauvre Anne d'Autriche, on lui a incisé sa tumeur, qui était directement apparente à la peau, au niveau du sein, et on lui a donné de la viande pour essayer de nourrir le cancer par de la viande plutôt que le cancer ne se nourrisse de l'organisme de la pauvre Anne d'Autriche. Et ils essayaient même de donner la viande, est-ce qu'elle préfère l'agneau, est-ce qu'elle préfère le cheval, est-ce qu'elle préfère le bœuf, etc. pour essayer de trouver le goût, si on peut dire,
du cancer.
Favori du cancer. Un peu physiologie du goût avant l'heure. Évidemment, ça ne marchait pas, bien entendu. À la fin, il a fallu l'amputer et la fin était cataclysmique.
Ouais. Est-ce que les différentes sortes de cancers étaient les mêmes à cette époque, aujourd'hui, ou où on a d'autres pathologies.
D'abord, il y a un dogme qu'il faut absolument détruire, c'est l'idée que les cancers n'apparaissent qu'avec la révolution industrielle, 1860 à peu près, en Occident, et qu'avant, il n'y a pas de cancer. Ça, c'est totalement faux. Il y avait des cancers avant, beaucoup, mais ça n'était pas les mêmes types de cancers. Il n'y avait pas encore, c'est vrai, les polluants industriels qui peuvent favoriser le développement d'un nouveau type de cancer, mais il y a des polluants naturels, il y a des inflammations chroniques, il y a des parasites dont l'infestation chronique peut favoriser le développement de certains types de cancers qui n'existent quasiment plus maintenant ou alors dans les pays qu'on dit politiquement en voie de développement. Donc, il y avait des cancers, ils étaient différents et c'est tout le danger et toute la difficulté d'en faire le diagnostic sur les populations anciennes. Mais il n'y a plus maintenant de nécropoles qu'on étudie pour lesquelles on ne trouve pas de cancer.
Allez, Descartes, Balzac ou Hitler, d'autres morts célèbres que nous allons aborder ensemble dans un instant. Philippe Charlier, à l'occasion de la publication de cet ouvrage.
Voz urgente te diz. dizendo que eu já não tenho tanto tempo assim. E o que sobrou do tempo pra mim? Eu penso em você e em nós dois. A flor no teu cabelo, a cor do sonho. Vem amor, que a vida nos convida pro passeio. Tua dança, calmo passo. Adapto-me ao nosso andamento. Teu corpo me encontra no espaço. Procuro aproveitar esse momento. Estou no seu apartamento. Os fatos se alinham no acaso. Os astros têm lugar no firmamento. Eu penso em você e em nós dois. A flor no teu cabelo, a cor do sonho. Vem amor, que a vida nos convida pro passeio. Horas generosas do sossego. E depois podemos desvendar outros desejos. Se a gente tá afim, tudo será.
E c'était Saulo Duarte.
La tête au carré.
Voilà, Philippe Charlier avec cette autopsie des morts célèbres chez Talandier. Il y en a beaucoup, évidemment, dans cet ouvrage. On pourrait parler, par exemple, de Descartes, de Balzac. Tiens, Balzac, on a un petit extrait d'un feuilleton, cette série de José Dayan, avec la voix de Gérard Depardieu, qui l'incarnait fort bien. On va voir pourquoi.
Je prends qui veut bien de moi.
Oh non, Honoré. Tu peux séduire n'importe quelle femme. Peut-être... Tu n'es pas très beau, c'est vrai, mais tu es tellement plus que ça. Toi qui exiges tout dans ton travail, tu devrais bien avoir la même exigence dans ta vie amoureuse.
Voilà Balzac incarné par Gérard Depardieu, et on fait tout de suite l'association physique hein, entre le comédien et l'écrivain, parce qu'effectivement, vous racontez ça, hein, il y avait vraiment une obésité chez Balzac et des conditions très particulières qui ont favorisé justement sa mort. Hein.
Oui, alors Balzac consommait plutôt du café et l'acteur dont on ne donnera pas le nom consomme plutôt un autre type de liquide, je crois, mais c'est pas du café. En tout cas, sur Balzac, on n'a pas eu accès directement au cadavre, c'était absolument pas le problème. On a eu accès à des documents médicaux et des témoignages de contemporains qui nous ont bien montré l'altération progressive de l'état physiologique de Balzac au fur et à mesure de sa consommation de café, et surtout le développement d'une insuffisance cardiaque liée à la caféine, liée à une néphropathie également, c'est-à-dire une atteinte des reins avec des œdèmes qui s'installent au fur et à mesure, et ensuite une défaillance multiviscérale, c'est-à-dire tous les organes qui cèdent les uns après les autres jusqu'à l'agonie finale et la mort de Balzac.
Mais quand vous ne travaillez que sur des documents écrits, Philippe Charlier, la paléoanatomie fonctionne encore alors ?
Alors c'est pas la paléopathologie, c'est ce qu'on appelle de la pathographie, c'est-à-dire qu'on s'intéresse uniquement aux écrits, aux témoignages portant sur la vie et la maladie, et parfois la mort d'un individu. Donc forcément, c'est beaucoup plus sujet à caution, puisque ça porte sur des témoignages. Néanmoins, le recoupement des témoignages et aussi le fait de travailler avec des archivistes paléographes et des historiens purs et durs nous apporte beaucoup, car eux seuls sont capables de nous dire « ce témoignage est crédible, celui-là, vous n'y touchez pas ». Et on les écoute.
Jean-Sébastien demande « est-ce que vous avez déjà pensé à enquêter sur la mort d'Émile Zola ?»
Oui, Jean-Sébastien, j'ai travaillé dessus et notamment publié les résultats dans un livre qui s'appelle « Le roman des morts secrètes de l'histoire, et en l'occurrence c'est une intoxication aiguë au monoxyde de carbone. En fait c'était même, alors on ne sait pas si c'est accidentel ou si c'est criminel, toujours est-il que le tuyau d'évacuation du poêle avait été bouché. Il y avait eu des travaux peu de temps avant. Mm-hmm. Son épouse également a été atteinte. Le petit chien également qui dormait dans la même chambre a été touché. Il est mort. L'épouse, non, elle a survécu. Et le pauvre Émile Zola, lui, a été retrouvé mort au petit matin.
Et la même chose, vous avez travaillé sur son corps ou sur les documents ?
Alors là, on a pas mal de données qui sont conservées aux archives de la préfecture de police de Paris, qui est maintenant aux portes de Paris, avec des comptes rendus médicaux, avec des examens par des experts, et puis même des témoignages, des auditions qui vont jusqu'à l'ouvrier qui avait réparé le poêle.
Et le crâne de Descartes, Philippe Charlier, est-ce qu'il donne des informations sur ses capacités cognitives particulières ou pas ?
Oui, ce crâne est conservé au Muséum National d'Histoire Naturelle, précisément maintenant, il est en exposition au Musée de l'Homme. Mmh. Et alors, vous savez, il y a une science qui d'ailleurs est une pseudo-science qui s'appelle la phrénologie, qui avait cours au XIXe siècle. On disait qu'on pouvait déterminer à partir des reliefs de votre crâne et aussi l'aspect de votre visage, si vous étiez plutôt à tendance...
C'était la bosse des maths, quoi. Hein.
Voilà, la bosse des maths, la bosse de plein de choses, ou alors un criminel potentiel. C'est la théorie de Cesare Lombroso à Milan. C'est un peu dangereux, un peu façon Minority Report de Philip K. Dick. Et donc, on a voulu faire un travail qui était exactement l'opposé de ça. C'est-à-dire reconstituer le cerveau de Descartes à partir de son crâne. Comment est-ce qu'on le fait ? Eh bien, l'intérieur du crâne, ce qu'on appelle l'endocrâne, correspond au négatif de la surface du cerveau.
Oui.
Le cerveau est un organe pulsatile qui, au fur et à mesure du temps, va marquer l'intérieur du crâne.
Donc, ce sont les circonvolutions du cerveau.
Ce sont les circonvolutions du cerveau.
Qui s'imprègnent vraiment dans la boîte crânienne.
Qui s'imprègnent vraiment, oui. Et en faisant un scanner au crâne, en soustrayant l'os, on a du coup l'air, on reconstitue ça ensuite en trois dimensions et on obtient un double en résine ou alors de façon virtuelle du cerveau de Descartes. Et ensuite, on compare en anatomie ce qu'on appelle les aires de Brodmann, qui sont des aires, pas du tout comme la phrénologie, là c'est vraiment de la neuroanatomie pure et dure, pragmatique, cartésienne, j'ai envie de dire.
Ouais.
Eh bien, on s'est rendu compte qu'il avait une aire de Brodmann, l'aire 45, qui était beaucoup plus développée, non pas que la majorité de la population, car ça serait pas sérieux, mais qu'une centaine de cerveaux reconstitués d'hommes de même âge ayant vécu à la même période. Donc là, on est vraiment statistiquement dans quelque chose qui permet une comparaison.
Et ça dit quoi alors de
l'air 45, c'est l'idéation dans l'espace, c'est l'organisation, c'est la sémiologie, la sémiotique, donc la façon d'identifier, de nommer, de créer des liens entre objets et mots. Et puis c'est aussi une certaine acuité pour la musique. Alors on s'est dit, tiens, la musique, Descartes, c'est pas évident. Et c'est en parlant évidemment et en intégrant un spécialiste de Descartes, Russell Shorto, dans l'équipe, qu'on s'est rendu compte qu'il avait écrit un traité de musique, le Compendium Musicae, mais il trouvait que c'était une discipline mineure et il ne souhaitait pas Descartes que ça soit publié de son vivant. Et c'est, en effet, ça a été publié après sa mort en 1650. Je ne dirais pas que son cerveau était prédestiné pour ça, car ça n'est pas la réalité scientifique, mais il avait une aire de Brodmann qui facilitait.
Ouais. Philippe Charlier, Hitler, Adolf Hitler, évidemment, beaucoup de fake news ont circulé, théorie du complot autour de sa disparition. Comment est-ce que vous avez été amené à vous rendre à deux reprises en Russie et donc à avoir face à vous un bout de mâchoire et une partie du crâne aussi ?
Oui, dans le cadre d'un documentaire qui était réalisé par Jean-Christophe Brizard pour France 2, une demande officielle a été adressée au gouvernement russe pour avoir accès et pour étudier ces restes putatifs de Adolf Hitler, qui sont en effet dans deux services différents de contre-espionnage, et ça a été obtenu. Voilà, l'autorisation est tombée, donc je me suis rendu.
Pourquoi est-ce qu'ils sont en Russie d'ailleurs, ces fragments ?
Donc Hitler, d'après l'histoire, et c'est la stricte vérité, on a pu le montrer, est mort à Berlin en 1945. Un majordome a déposé le cadavre de Adolf Hitler avec celui de Eva Braun dans un trou de but et il y a mis le feu. Et ensuite, quelques jours plus tard, les soviétiques à l'époque, en 1945, sont arrivés dans cette partie de Berlin, ont récupéré les restes, mais en deux campagnes successives. D'abord, un service a récupéré les dents et ensuite un autre service a récupéré quelques mois plus tard le reste du squelette, notamment ce fragment de calotte crânienne. C'est pour ça que maintenant c'est chez, non plus les soviétiques mais les russes, dans deux services différents, à Moscou.
Et comment est-ce qu'on peut être sûr qu'il s'agisse bien justement des restes d'Adolf Hitler ?
Alors d'abord, ces restes, ils étaient connus déjà. On sait que sur la morphologie, avec les prothèses dentaires, la forme des dents, etc., on savait que c'était morphologiquement totalement compatible avec ce qu'on savait de lui par des dossiers dentaires, par des radiographies faites un an avant sa mort et qui sont conservées maintenant aux États-Unis. Mais ce qu'il fallait savoir, et c'était le but de mon enquête, c'était aller sur place et voir si les soviétiques, notamment à l'époque de Khrouchtchev, une dizaine, quinzaine d'années plus tard, n'avait pas réalisé un faux historique pour faire une sorte de fausse prise de guerre, de faux trophée de chasse, si on peut dire.
Alors, ce n'est pas le cas. Hein. Ça, vous l'avez prouvé.
Alors, ça n'est pas le cas. Ce sont des restes authentiques. Ce sont des prothèses qui ont servi, avec surtout du tartre dentaire à la surface, avec des traces de corrosion bleuâtre liées vraisemblablement au fait d'avoir croqué une ampoule riche en cyanure qui a créé cette sorte de précipité d'amalgame avec les prothèses dentaires. Le tartre dentaire lui-même, j'ai été autorisé à le prélever et à le ramener ensuite en France. Et à l'examiner au microscope électronique à balayage et aussi en toxicologie. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune fibre carnée à l'intérieur, c'est-à-dire pas de viande, ce qui colle en tout cas avec le régime purement végétarien de Adolf Hitler, et beaucoup d'argile aussi à l'intérieur, hein, pas à la surface, c'est pas de la contamination. Et ça, ça colle également avec son dossier médical, conservé aux États-Unis, pour lequel on sait qu'il prenait beaucoup d'argile parce qu'il avait des aigreurs d'estomac, des brûlures acides, et l'argile fait partie du traitement qui lui avait été prescrit.
Et sur le suicide, très rapidement.
Et sur le suicide, le cyanure, j'en ai parlé, et le crâne, si c'est bien lui, morphologiquement, on sait que ça correspond. On a un orifice de sortie de projectile à balle d'arme à feu qui est totalement compatible avec, avec un tir suicidaire. Seule chose certaine, il ne s'est pas tiré une balle dans la bouche, car on n'a pas de résidu de tir à la surface des dents.
Merci beaucoup Philippe Charlier, s'appelle Autopsie des morts célèbres chez Talendier, ouvrage sorti avec David Alliot. Merci d'être venu nous en parler aujourd'hui à la Tête au Carré. À bientôt.